Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora. Et moi, Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici, on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Et bienvenue dans un nouvel épisode.
Coucou Isadora, comment vas-tu en ce jeudi, je ne sais pas combien, 13, 14, 15 avril ?
13.
13 avril.
Bah écoute, ça va, c'est bientôt les vacances. Oui, parce que quand on devient parent, j'ai l'impression que quand on quitte les vacances, c'est déjà les vacances.
Les vacances, oui. Tout notre rythme, c'est sur les vacances de nos enfants.
C'est incroyable. Ouais. Donc, mais moi, j'ai hâte que ce soit les vacances parce que je pars voir ma grande sœur, notre grande sœur, à Pau et à Biarritz. Donc, on part toutes les deux avec ma fille. Donc, j'ai trop hâte. Je suis contente. Et toi ?
Mais moi, je suis trop contente parce que ce matin, avant que l'on filmasse, il faisait beau. Là, évidemment, j'ai la vue sur ton jardin et not so much. Mais ce matin, j'ai pu faire une grande balade. Mmh. Et ça, je suis hyper contente parce que c'est mon intention de 2023. Mon intention d'avril 2023. C'est de faire attention, enfin pas attention, de chouchouter mon microbiote, mais je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Et ça passe aussi par marcher davantage, en tout cas bouger davantage, être en mouvement davantage. Et donc ce matin, je suis allée marcher et je suis très fière de moi, puisque avec ce quotidien de maman solo aujourd'hui, de travailler à domicile, etc., le mouvement, en fait, finalement, on se rend compte que... On le fait peu. Ce qui est étonnant, les gens pourraient penser que plus tu travailles seul, plus tu vas bouger. Mais en fait, on se rend compte que non.
Parce qu'on priorise toujours trop le travail.
C'est pas bien du tout.
Et voilà. Moi aussi, je suis allée marcher ce matin, ça m'a fait du bien.
Et ben c'est trop chouette. Cool. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast qui s'intitulera comment ? Je ne sais plus, je l'ai noté là. Si on devait recommencer notre rééquilibrage alimentaire aujourd'hui, que ferions-nous ? Oui, on a trouvé que c'était intéressant de se remettre en question, de voir l'évolution de notre vision de l'alimentation au fur et à mesure de ces nombreuses années, puisque nous, pour rappel, on avait commencé notre rééquilibrage alimentaire il y a tellement longtemps que je ne sais plus.
Ben, je pense que c'était en 2014. Hein.
En 2014. Voilà, Isadora et moi, on avait pris du poids, mais ça, on en a déjà parlé tellement de fois, mais on avait pris du poids suite au fait de cette mise en couple, etc. On avait pris 10 kilos environ. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'entamer un rééquilibrage alimentaire. Nous, on n'a pas été suivis par un professionnel de santé, parce qu'en fait, comme on avait pris, entre guillemets, que 10 kilos, et qu'on savait un peu d'où ça venait, on a trouvé que c'était facile, finalement, de commencer par nous-mêmes. Et si on avait eu le besoin, je pense qu'on aurait eu... comme on a une grande sœur qui est diététicienne nutritionniste, c'est vrai que ça aide dans les questions qu'on peut lui poser. Et puis, on a déjà quand même pas mal d'informations, oui, grâce à Karine, au quotidien, sur l'alimentation. Donc, on n'a pas senti le besoin, à cette époque-là en tout cas, de se faire aider. Mais ça aurait pu.
Et surtout aussi parce que nous n'avions pas un problème de base, par exemple, d'obésité,
non,
ou de relations compliquées avec la nourriture. On l'a dit plein de fois aussi, mais bon, si des personnes arrivent sur cet épisode, ils ne le savent pas, mais nous, c'est vrai qu'on a eu une éducation alimentaire plutôt
plutôt saine. Donc, on n'a jamais eu ni de compulsion alimentaire, rien du tout, en fait. Donc, on savait que les 10 kilos qu'on avait pris, c'était uniquement parce qu'on mangeait trop avec nos conjoints. Les débuts de couple, voilà, on a pris 10 kilos en très peu de temps, parce qu'on est devenu sédentaire aussi. Oui, ça aussi, on en parle peu, mais le fait de passer du jeune adulte qui fait plein de choses, qui va en boîte, qui bouge tout le temps, qui a toujours plein d'énergie, et après, la personne qui devient adulte et qui travaille dans des tafs où on est un peu sédentaire, ça nous a fait nous prendre du poids. Mais on n'avait pas de relation compliquée avec la nourriture, donc pour nous, c'était facile de le faire sans avoir besoin d'un professionnel de la santé.
Oui. Mais c'est vrai qu'en revanche, le fait de dire qu'on a pris du poids que parce qu'on mangeait beaucoup et la sédentarité, moi, je sais aussi qu'en règle générale, quand je prends du poids, que ce soit récemment ou à l'époque, c'est souvent lié à mes émotions. Et je ne savais pas à l'époque le lien, je ne faisais pas le lien entre moi qui ai beaucoup mangé. Parce que je me disais, c'est parce que je suis gourmande. Oui. Mais en vrai, c'est aussi parce que moi, je m'ennuyais beaucoup. On s'ennuyait beaucoup. Moi, je venais de finir mes études de lettres modernes. Et après ça, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, pendant un an, voire deux, je ne sais plus si c'était un an ou deux, j'ai fait des petits boulots. Mais la première année, avant de faire des petits boulots, la première année, je n'ai rien fait.
C'est vrai. Mais en même temps, c'est exactement pareil, puisqu'on était au chômage, toutes les deux, en même temps, et on passait beaucoup trop de temps à questionner ce qu'on va bouffer, à faire à bouffer.
Ma vie, c'était de penser à ce que j'allais manger, tellement je m'ennuyais dans mon quotidien.
Tout en regardant toutes les téléréalités
possibles.
Tout en regardant sur M6, le téléfilm de M6. Et qu'est-ce que j'ai mangé ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais manger de bon, toute seule, devant le téléfilm bidon de M6 ?
Et c'est vrai que l'ennui, et ça, je pense que c'est une des premières choses que je referais si je devais commencer mon équilibrage alimentaire aujourd'hui. Ce ne sera pas dans l'ordre, hein, ça sera sous forme de conversation. Prenez ça comme ça, c'est une conversation entre nous, quoi. Et je pense que je ne minimiserai pas la relation entre les émotions et l'alimentation. À l'époque, je n'en voyais pas le lien. Je ne voyais pas le lien, je ne savais pas. Pour moi, c'était, j'étais gourmande. Mais c'est drôle qu'après je suis toujours gourmande, mais quand même le fait d'avoir ensuite repris mes études en droit public, ensuite d'avoir trouvé mon premier emploi, ensuite d'avoir passé mon concours pour devenir fonctionnaire, ensuite de l'avoir reçu, en fait tout ça a fait que j'ai totalement perdu mon poids, parce que l'alimentation doudou, l'alimentation gourmande,
l'alimentation réconfort, l'alimentation occupation,
et t'es perdu,
puisque t'as trouvé une autre occupation qui te prenait...
Qui me nourrissait davantage.
Voilà, qui te nourrissait, chercher le mot. Qui te nourrissait davantage, et t'avais pas besoin de te nourrir d'autre chose. Et quand je dis nourrir, c'est nourrir d'alimentation, mais on se nourrissait aussi énormément, comme je disais tout à l'heure, de télé-réalité.
Oui.
On se nourrissait de choses très superficielles.
Oui.
Parce qu'on
qui nous faisait pas du bien.
Et qui nous faisait pas du bien.
Parce qu'en soi, si tu te nourris de choses qui te font du bien, toi, t'as l'impression que ça te fait du bien. Mais en fait, moi, ça me faisait pas du bien. Je le savais sur mon moral, puisque c'est le moral qui faisait qu'ensuite je mangeais beaucoup. Donc, je pense que je réfléchirai sur ce lien entre alimentation et émotion. Et je me poserai aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose la question. Hein, je sais que quand ça allait pas bien pendant quelques temps après mon postpartum, j'ai beaucoup mangé. Ça, j'en avais parlé sur la plateforme qu'on avait avec nos membres. Je m'étais ouverte là-dessus. Et j'avais dit que j'avais pris du poids parce que justement, je mangeais. Et tout de suite, je me suis dit, Marisa, tu vas pas bien. Et aujourd'hui, maintenant, c'est tellement automatique. C'est Marisa, ton comportement alimentaire, regarde comment il est. Pose-toi les questions, est-ce que tu vas bien ? Et en fait, quand tu te check, je me suis dit, non, en fait, j'allais pas bien. Et donc, il fallait encore une fois que je fasse des changements dans ma vie. Donc là, quand j'étais plus jeune, c'était, il faut, Marisa, que tu reprennes tes études. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Là, tu sais pas quoi faire avec ta licence de lettres. Inscris-toi en droit public, vois ce que ça où ça va t'amener, en administration publique. C'était pas le rêve de ma vie d'être fonctionnaire, mais je me suis mise à fond pendant une année entière en droit public. J'ai adoré.
T'avais un objectif.
J'avais un objectif. Voilà, c'était un objectif. Ensuite, c'était trouver un emploi dans l'administration, passer de contractuel à fonctionnaire, donc passer le concours, donc pareil, il faut travailler, il faut bûcher. Donc mon esprit était ailleurs et j'étais épanouie, en fait.
Oui.
Donc, je pense que la première chose, c'est ça.
Oui, c'est vrai que...
Se checker un peu.
Et c'est vrai que maintenant, comme tu dis, c'est automatique, parce que j'avais eu la même chose pendant mon postpartum aussi. Hein. C'est vrai que ça, je l'avais... Non, je ne sais plus si je l'avais partagé peut-être sur la plateforme. Mais pendant le postpartum, après l'arrivée de ma fille, moi, la première année de l'arrivée de ma fille, j'ai aucun souci pour manger, pour faire du sport, pour travailler. Enfin, tout était fluide. Et c'est au bout d'un an que j'ai pris pas mal de poids, quand ma fille a commencé à avoir un an. Donc moi, je n'avais pas pris de poids pendant sa première année. J'en ai pris après. Et quand je m'en suis rendu compte, je savais très bien pourquoi, parce que j'étais crevée, j'allaitais, etc. J'étais tout le temps fatiguée, plus un travail qui me demandait beaucoup d'énergie. Donc le soir, je faisais à manger limite pour ma fille. Et moi, je pouvais manger au-dessus de mon évier, quoi, manger du pain, du beurre, etc. Et quand je me suis rendu compte de ça, très vite, après, c'est vrai qu'aussi, on avait la plateforme à cette époque-là, qui, quand les expertes parlaient avec nos membres, en fait, je le prenais complètement à chaque fois pour moi et je le mettais aussi en pratique pour moi parce que je savais que c'est parce que j'étais également avec des émotions qui étaient trop denses, trop fortes et que je me nourrissais parce que je ne me sentais pas assez... je ne me sentais pas assez reposée, en fait. Oui. Donc, j'étais tellement fatiguée que je mangeais beaucoup. Et hop, il suffit de quelques minutes pour que je me dise « Ah oui, je ne vais pas aller faire du sport à outrance, commencer à faire un milliard de régimes. Il faut juste que je revoie un petit peu mes émotions. »
Ouais. Et c'est vrai que ce que tu as dit, là, je voulais rebondir et j'ai oublié. Laissez-moi quelques instants pour me ressaisir. Parce que c'est intéressant que tu as dit. C'était, oui, déjà je voulais faire le point de le fait que cet épisode on l'a fait, on n'est pas professionnel de santé, nous Isadora et moi on n'est pas des experts de santé, on n'est ni diététicienne, ni nutritionniste, ni quoi que ce soit, on est juste des personnes qui un jour on a décidé de rééquilibrer notre alimentation, parce que nous on a déjà un passé, comme Isadora disait, d'une maman qui nous a extrêmement bien nourri au quotidien avec des repas à maison, etc. Donc c'était pas difficile pour nous, c'est pas un long chemin, mais donc voilà, c'est juste une conversation pour vous donner des pistes, mais après, on ne vous recommandera jamais assez de si vous êtes vraiment en souffrance et que vous avez du mal à le faire toute seule ou tout seul, c'est d'aller consulter un professionnel de santé.
Ils sont là pour ça.
Voilà. Ce qu'on a appris ou mis en place plutôt pendant cette période de rééquilibrage alimentaire, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement acquis. Mais c'est pas parce que c'est totalement acquis que notre vie est totalement linéaire. Il y a des choses qui vont se passer dans notre vie qui vont faire que bah il y a des moments où on arrêtera totalement de faire du sport pendant un temps parce que on n'a pas le mental, l'espace mental, l'envie, une vie qui nous le permet, etc. Pensez toujours que ce que l'on va dire pendant cette vidéo et pendant cet épisode de podcast, c'est en chemin. Toujours, c'est des choses qui ne sont... Et ça, je pense que c'est aussi une chose que j'aurais aimé, que je referais différemment au début de mon rééquilibrage alimentaire, c'est de me dire, Marisa, tu es en chemin. C'est pas, j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, demain après-midi, il faut que ce soit, que je sois fit, que voilà. Et ça, à l'époque, j'avais commencé mon rééquilibrage alimentaire et il fallait que la semaine suivante, je vois déjà où en étaient mes progrès. Alors que finalement, c'est un long processus et vous allez voir que quand on commence le rééquilibrage alimentaire... Il y a tellement de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de ce chemin.
Bah là, ça fait 9 ans qu'on a fait le rééquilibrage alimentaire. En 9 ans, il y a eu énormément de choses qui sont passées dans nos vies.
Oui.
Il y a eu des entreprises qui sont montées, qui ont fermé. Il y a eu la maternité. Il y a eu des déménagements. Donc, bien évidemment, le rééquilibrage alimentaire, il est acquis. Mais tout ça dans une vie qui est longue. Et ce matin, on parlait avec Claudie. Et Claudie lui disait... J'ai toujours cette impression que je dois apprendre sur moi à arrêter de minimiser, des choses comme ça. Et donc, c'est toujours une sorte de yo-yo de « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable ». Ah non, si, je suis capable. Et elle me disait « mais comme tout le monde, puisque la vie, c'est un travail sur soi ». Et parfois, on a tendance à l'oublier. Et pareil, moi, j'aurais aimé, avant mon rééquilibrage alimentaire ou pendant mon rééquilibrage alimentaire, avoir des personnes... comme Claudie ou comme Karine, mais que j'écoutais pas trop à l'époque. J'écoutais pas trop quand elle me parlait d'émotions et tout. Moi, ce que je voulais, c'était... J'avais 10 kilos. Je voulais perdre 10 kilos en... Comme tout le monde.
En trois semaines.
En 3 mois, limite, tu vois.
Non, moi, c'était 3 semaines.
Ouais. Donc, et avoir des personnes qui te disent très souvent, comme nous, on fait là, par exemple, vous dire... un travail... Enfin, la vie est un travail sur soi. C'est vrai. Et parfois, on a tendance à l'oublier.
Oui.
Que c'est pas parce qu'aujourd'hui, le rééquilibrage alimentaire est acquis que ça veut dire qu'il n'y a plus de travail.
Oui.
Non, il y a toujours un travail à faire sur soi.
Donc, ça va être un chemin. Donc, moi, j'aurais aimé me dire ou qu'on me dise, Marisa, tu as commencé à manger sainement. Ce n'est pas pour autant que demain après-midi, tu peux aller direct te mettre sur la balance pour savoir combien tu as perdu. C'est un chemin. Et aussi, cette, j'aurais aimé... Enfin, c'est pas que j'aurais aimé. En fait, c'est pas l'impression que c'est l'épisode. Je l'ai transformé en ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Oui. Mais non, c'est pas ça. C'est ces choses que je referais différemment. C'est, je pense que je me dirais potentiellement. Mais là, ça c'est quelque chose. C'est tellement un ressenti que là, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui j'en suis tellement consciente. C'est que quand on commence un rééquilibrage alimentaire, c'est pas la perte de poids
oui.
qui sera le plus impactant dans notre oui. vie. Moi, c'est pas ça en fait qui m'a le plus impacté dans ma vie. En fait, c'est de se dire, le rééquilibrage alimentaire, l'alimentation, c'est au-delà de juste cette apparence physique. Oui. Moi, ça a été un changement radical dans mon problème de digestion. C'est vrai qu'à l'époque, Isadora et moi, on avait des... Bon, Isadora avait la maladie de Crohn. Moi, j'avais des problèmes de digestion, mais moi, j'estimais que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de digestion. Et j'avais vu une étude d'ailleurs, enfin, j'ai pas lu une étude, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui parlait d'une étude qui disait que nous, les femmes, on a très souvent tendance à souffrir de maux, ça peut être des maux de, pendant nos règles, ça peut être de digestion, ça peut être des migraines, ça peut être plein de maux, et que nous, on souffre en silence.
Les mycoses.
En général, les mycoses, etc. Que nous, en général, on a tendance à vivre avec. Donc au début, ça nous fait souffrir, et au fur et à mesure, on vit avec, et c'est un état de fait. Nous avons toujours mal, mais on vit avec. Et moi, c'est vrai que j'avais ce truc-là de me dire, de toute façon, je suis quelqu'un qui a un problème de digestion, et c'est tout. Je n'avais pas fait le lien entre mes problèmes de digestion et mon alimentation totalement déséquilibrée où, à l'époque, pour rappel, je vivais en couple et on se faisait des vrais repas. Hein, des genre, je pouvais nous faire des lasagnes, par exemple.
Toujours le même exemple, par exemple.
Non, toujours le même exemple. Je pouvais faire des lasagnes, un plat de lasagne familiale. Il n'y en avait pas pour le lendemain.
En fait. Et l'Indien aussi, beaucoup.
Je mangeais beaucoup d'Indien, je prenais beaucoup à emporter. On mangeait beaucoup de poulet aussi. Et comme j'étais avec un mec qui aimait beaucoup la viande, etc., on achetait genre 4 cuisses de poulet. Je les faisais rôtir au four, tu sais, avec des pommes de terre, des oignons, trop comme bon. Ça. Et on mangeait les 4 cuisses dans la soirée. Voilà.
Tout est dit.
Tout est dit. Donc c'est pour vous donner un petit peu, voilà. Et donc... Mais je me disais pas, Marta, t'as mangé 2 cuisses de poulet là, hier soir, c'était trop gras, t'avais même pas bougé. Je vous rappelle hein, qu'on bougeait pas, j'avais pas de métier à l'époque, j'avais pas de vie sociale.
Et t'as pas mis ça, t'as pas mis tes flatulences
non.
sur les 4 cuisses
non.
ou le plat de gratin, le plat de...
À l'époque, je préférais vivre avec des œillères. Et donc du coup, quand j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation, je me suis rendu compte à quel point ma digestion s'apaisait. Je me suis rendu compte que du coup, je ne souffrais plus du ventre, je ne sentais plus mon ventre. Et je me suis rendu compte que j'avais une peau qui était totalement différente. Chose que, à l'époque, j'avais une peau dégueulasse. J'avais vraiment une peau que je disais acnéique, qui était vraiment dégueulasse, que du coup, je camouflais avec plein de fond de teint. Pareil, mes cheveux ont commencé à pousser. Moi, j'avais des cheveux qui ne poussaient pas plus que ça. Mes cheveux ont commencé à pousser. Et donc, c'est vrai que, à refaire... J'aimerais aussi que quelqu'un me dise quand même que... Oula, il pleut d'un coup.
Il pleut.
Voilà.
Je sais pas, ah, il grêle.
Il grêle.
Ah, c'est vrai que ça fait du bruit de ouf.
J'aimerais que quelqu'un quand même me dise, Marisa, tu verras que le chemin que tu vas emprunter de rééquilibrage alimentaire, tu vas voir des bienfaits dans tellement autre chose que ton corps et ton aspect physique.
C'est clair. Et tout pareil, on a déjà fait de toute façon un épisode... il date, hein. De comment le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie, mais c'est vrai que c'est toujours d'actualité parce que on voulait absolument le corps de la fitness girl parfaite et finalement on est arrivé à un point où le corps n'était tellement plus le sujet puisque le corps nous a permis finalement c'était plus le sujet le corps, c'est ce qui est devenu le sujet, c'était une qualité de vie différente. Plus d'angoisse, par exemple, pour moi. J'ai pris une vie complètement normale. Un changement de carrière, un changement de vie. Finalement, ça n'a apporté que du positif. Mais j'oublie même que ça m'avait apporté ce corps que je montrais comme ça sur Instagram, qui maintenant, ça ne viendrait même plus à l'esprit de prendre des photos en mode...
Oui.
Si vous allez tout en bas de mon compte, je pense qu'elles y sont encore, hein, ces photos où je disais moins temps.
Oui.
Parce qu'il n'y a que ça qui m'importait à l'époque.
Oui.
Il n'y a que ça. Je m'en foutais de savoir que je me suis réveillée de bonne humeur. Ah, je ne fais plus la gueule. Allez écouter aussi l'épisode « Avant, nous étions méchantes et pauvres » parce que c'est exactement la même chose. Le rééquilibrage alimentaire a fait aussi, au-delà de l'alimentation, ça a été aussi un travail sur nous. Et de se rendre compte qu'on est devenus des personnes beaucoup plus épanouies et donc aussi beaucoup plus aimables. Parce qu'avant, on en parle très souvent avec Marisa. Il y a quelques jours, on en parlait quand on regardait Love is Blind, en se disant, mais elles sont nulles, ces nanas, qu'est-ce qu'elles sont méchantes, etc. Et puis on s'est dit, mais en fait, à leurs âges, on était limite pareil.
On était détestables.
On était détestables.
Ouais, on était des gentilles filles. Oui. On a toujours été des gentilles filles, mais on avait des petits endroits. Ouais, on avait des toxic traits. On avait des petits traits toxiques, quand même, que l'on faisait subir à notre entourage, comme ça, et à nous-mêmes, hein, finalement. Hein, parce que finalement.
À cause
d'un mal-être, du mésestime de nous-mêmes, et d'un ennui. Mm. Hein, clairement, il faut se le dire, on s'ennuyait dans notre vie. Donc, non, c'est intéressant.
Et quand on parlait, par exemple, des cuisses, etc., de poulet, ça permet de faire une transition sur aussi qu'est-ce qu'on changerait aujourd'hui si on devait recommencer notre équilibrage alimentaire. Donc voilà, si j'avais besoin de refaire exactement un équilibrage alimentaire pour perdre du poids, par exemple, hein, parce qu'on va dire que c'est souvent ça la base, et finalement, il y a tellement beaucoup plus... Et en fait, ce serait chouette aussi que sur les réseaux, ou même dans les magazines, puisque là, c'est... Nous sommes en avril. D'ici un mois, nous verrons donc toutes les couvertures en mode comment être belle cet été à la plage. Alors que ce serait super aussi de faire, par exemple, des couvertures que le rééquilibrage alimentaire peut permettre de ne plus avoir de problèmes de microbiote, d'intestin. Ce serait chouette de voir aussi que ça permet de ne plus avoir peut-être aussi de migraines intempestives. Mais non, on parle que du corps. Bon, oui. On va les laisser encore prendre le temps de se rendre compte qu'il y a d'autres choses plus intéressantes.
Parce qu'en fait, je pense que pour tout le monde, le rééquilibrage alimentaire, c'est souvent par rapport au corps.
Oui.
Mais au début, c'est pour beaucoup de gens, dont nous, c'était le corps physique, le corps apparence extérieure, pardon. Et qu'en fait, finalement, si on prend conscience que le rééquilibrage alimentaire, c'est pour ton corps, mais aussi intérieur, et que ce qui va se passer à l'intérieur va rejaillir de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui va... Ton microbiote, il est bien, tout va bien en place, etc. Ton foie, il va bien, etc. Ta peau, elle va mieux.
Ton mental va
mieux. Ton mental va mieux. Donc, tu auras plus d'énergie de te dire, tu sais quoi, j'ai envie d'aller aujourd'hui faire du sport, bouger, marcher. C'est ça, en fait. C'est le corps en nous, dans notre société moderne, c'est vraiment le corps en apparence physique qui compte. On oublie tous les aspects internes et qu'un rééquilibrage alimentaire peut apporter,
oui,
en fait.
C'est vrai.
Dommage.
Et je ne sais plus où je voulais en venir. C'était par rapport aux cuisses,
de poulet, tu dis.
Parce qu'à l'époque, quand tu faisais des cuisses de poulet, c'était aussi des cuisses de poulet. Ça aussi, c'est un truc qu'on a changé.
Ah oui, aujourd'hui, changerait
complètement. Et c'est ce qu'on essaie aussi, au fur et à mesure, de partager. Mais quand nous, on a commencé sur YouTube, quand on parlait de rééquilibrage alimentaire, le but, c'était d'avoir des ingrédients healthy, peu importe la provenance, peu importe la qualité du produit. Ça, enfin, on en avait cure.
On en avait cure. C'est
ce qu'on a partagé aussi sur les réseaux. Quand on remonte à il y a 7 ans, on pouvait montrer des courses Lidl, de la viande de Lidl, on pouvait montrer des œufs qu'on achetait à Lidl, ou n'importe quel magasin, en fait. On s'en foutait, puisque c'était... On dit que healthy, c'est de la compote de pommes, on va acheter la compote de pommes, on s'en fout si elle est bio, pas bio, si elle est locale, pas locale, où est-ce qu'elle a été faite, avec quel type de pommes, on s'en fout.
Et c'est vrai que les cuisses de poulet, en effet, on les achetait dans des barquettes où il y en avait genre 10 pour, tu sais, je sais pas, 5 euros, tu sais.
Ouais.
Et ça rendait énormément d'eau, forcément. Oui. C'est des trucs, c'était vraiment de la mauvaise cam. Et ça, moi, je m'en fichais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à recommencer, je respecterai davantage les produits de qualité. J'irai davantage chercher des produits de qualité. Donc, fatalement, j'en mangerai moins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, mon conjoint et moi, on voulait manger de la viande tous les jours. Midi et soir, j'avais pas encore conscience qu'on pouvait faire des repas sans viande. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je réduirai drastiquement ma consommation de viande, comme on fait nous aujourd'hui, pour privilégier de la viande de meilleure qualité. Pareil pour les fruits et légumes. Nous, on allait sur le marché chez le primeur et je pouvais prendre genre 1 kilo de courgettes.
C'était en plein hiver
et à combien ? Tu te souviens ? C'était genre 2 euros, 1 euro parfois ? 1 euro les 4 courgettes ? 1 euro les 10 courgettes ? Parce que mais il venait d'où ces courgettes ? Mais à l'époque, j'avais pas cette conscience-là.
On n'est pas là pour juger. Je me juge pas moi-même. Je me retourne et je me rends compte que, ah ouais, à l'époque, je faisais ça. Ça me viendrait plus à l'esprit aujourd'hui. Et si aujourd'hui, je reprenais par exemple beaucoup de poids et qu'il fallait que je refasse un rééquilibrage alimentaire, il serait pour moi hors de question d'aller acheter des barquettes de poulet. Mais c'est pas en jugement, c'est juste que...
C'est notre évolution.
C'est une évolution.
C'est l'évolution de notre état d'esprit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on mange de saison, ça vous l'avez quand même capté. On mange de saison, donc c'est vrai que là, on commence à se dire, avril, c'est chiant les légumes de saison. Mais il y a d'autres alternatives. Hein. Déjà, il y a des légumes surgelés, il y a des bocaux, il y a des conserves. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas du tout cette notion-là. Moi, je mangeais des courgettes toute l'année, j'en avais rien à cirer. C'était healthy, c'était bien. Ça venait d'où ? J'en avais rien à cirer. Elles étaient à 1 euro, les 10, allez, je les prends. Qu'aujourd'hui, pareil, ça ne me vient plus à l'esprit parce que tout de suite, mon cerveau questionnera pour quelles raisons ces courgettes, d'où viennent-elles pour coûter 1 euro les 10, quoi. Et comme je cherche aujourd'hui le produit de qualité, puisqu'aujourd'hui, je sais que manger sainement, c'est pas juste manger des légumes pour le bien de manger des légumes et donc de manger en hiver des courgettes ou des tomates, c'est aussi de faire profiter à mon corps de tous les bienfaits de ces légumes. Donc si je prends des légumes de saison que mon producteur de légumes, lui, a cueilli peut-être ce matin même ou la veille avant de venir sur le marché, je sais que là, j'ai des légumes dans leur pleine...
Avec leur pleine maturité, leur plus de vitamines
et nutriments, etc. Et ça, moi, je sais aujourd'hui que maintenant, ça m'importe. Donc, ça m'importe aujourd'hui de faire le plein de vitamines et de suivre les saisons, puisque je sais que les légumes qui poussent aujourd'hui, moi, j'habite en France métropolitaine, donc les légumes qui poussent aujourd'hui en France métropolitaine à telle période de l'année, c'est parce que la nature est bien faite. La nature estime que c'est ce dont mon corps, moi, a besoin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à recommencer, c'est sûr et certain que j'irai chercher du produit de qualité. Ça ne veut pas dire que c'est plus cher. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est surtout que, on mange moins, par exemple, de viande, ce qui est le budget, je crois que la part du budget qui est la plus énorme dans un budget alimentaire, c'est la viande, hein, clairement. Du coup, j'en mangerai moins, mais mieux.
C'est ça, c'est sûr. C'est vrai que quand on regarde... je ne faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, mais j'étais sur Instagram, plutôt sur Snapchat. Mais moi, c'était les jambons d'Inde, là, sous vide. Ça, je m'en foutais, en fait.
Oui.
Moi, on me disait que pour perdre du poids, il fallait manger deux blancs d'Inde. Et ben, j'allais acheter deux blancs d'Inde, des choses que je n'ai plus aujourd'hui. Donc,
mais parce qu'il y avait quoi dans ces blancs d'Inde ? C'est quoi la compo, tu vois ?
Et c'est ça
aujourd'hui,
aussi.
Maintenant, c'est la compo, je me dirais, mais c'est de la... J'ai l'impression, en plus, de ne plus faire... Voilà. C'est ça, tu n'as plus l'impression de te faire du bien, du coup.
Ah, non, aujourd'hui, et même, c'est horrible, mais quand je vais chez des gens, c'est rare, parce que les personnes autour de nous sont quand même très axées, enfin, pas santé, mais bio, local, etc. Mais moi, il y a un an peut-être, j'étais allée manger quelqu'un qui m'avait donné des blancs d'Inde. Je le mange, hein, parce que je suis bien élevée. Mais sur le coup, c'est hyper dur pour moi de l'avaler parce que je sais ce qu'il y a. Et à l'époque, je m'en foutais. Je lisais pas d'articles, je lisais pas d'études. Moi, tout ce que je regardais, c'était les fitness girls. Aujourd'hui, si je devais recommencer un rééquilibrage alimentaire, je me renseignerais aussi sur d'où viennent les produits, pourquoi, etc. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle, je ne sais plus, qui est sorti en 2015, qui s'appelle... c'est sur les industriels, là.
Oui, je sais. Mais là, j'ai pas mon téléphone à côté.
Je l'ai partagé un milliard de fois. Pourquoi je ne m'en souviens pas ? Je vais vous dire ça tout de suite.
Vous avalez ?
Vous êtes fou d'avaler ça ?
Vous êtes fou d'avaler ça, oui.
Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset, que j'ai lu. Alors, il est sorti en 2015, hein, donc en plein, limite, pendant mon rééquilibrage alimentaire. Si vous lisez ce livre, vous n'avez plus envie... vous avez plus envie plutôt de faire attention à l'origine des produits. Vous avez envie de faire maison. Vous avez envie de transformer vous-même les produits que vous achetez. Parce que clairement, quand il nous explique comment les industriels transforment les produits, ça donne franchement les poils comme ça sur les bras. Donc, c'est des choses que je ne faisais pas à l'époque, mais aujourd'hui, qui m'intéressent de savoir un peu comment ça se passe finalement dans l'industrie agroalimentaire.
Et c'est vrai que quand on dit ça, ça ne veut pas dire que nous, on ne consomme pas de produits industriels. C'est complètement faux. Vous le voyez bien dans tous les retours de course et tout. On consomme des produits industriels. Mais un paquet de madeleines industrielles, je sais. Je n'attends pas de ce paquet de madeleines de me nourrir, de me faire du bien. C'est ça la différence, en fait. Parce que parfois, on nous dit, ouais, vous tapez sur les doigts des industriels alors que... Non, on vous dit juste de prendre conscience de ce que vous mangez. Mais bien sûr que... On vous le montre très régulièrement. On a montré à Noël qu'on a mangé des Stollen achetés chez Lidl, mais on s'en est délecté. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour moi, il n'y en a pas de souci parce que ce n'est pas mon quotidien et parce que moi, je sais que pourquoi je l'ai mangé. Je ne l'ai pas mangé pour me nourrir et me faire du bien à mon corps.
Oui, et c'est la différence de faire en conscience.
Oui.
Ce qui est hyper important aujourd'hui pour nous, c'est que quand on va à Super U, moi, je fais mes courses à Super U, donc bien sûr, j'achète de l'industriel, je sais lire une étiquette, donc je sais ce que je vais acheter. Et ce qui, moi, me dérange plutôt avec l'industriel, c'est que comme on n'est pas éduqué sur, par exemple, un décryptage d'étiquette, les gens achètent sans conscience, parce qu'on achète en pensant que ce sera potentiellement bien, alors qu'on peut très bien acheter des produits industriels, mais le faire en toute conscience, en effet. Moi, aucun souci pour acheter des produits industriels. Mais quand je sais que la composition est nulle, je les regarde, je sais que la composition est nulle, hein, je suis là, bon, ok, très bien, nul ! Je prends quand même, mais je le fais en conscience, parce que c'est pas tous les jours. Parce que je sais que je vais pas m'empoisonner matin, midi et soir, que je le fais de façon ponctuelle. Donc ça, c'est vraiment une chose, mais clairement, d'ailleurs, ce serait peut-être la chose la plus importante pour moi que je ferais différemment, c'est la qualité des produits plutôt que la quantité. Avant, on achetait, parce que comme le but, c'était de perdre du poids, on achetait tout ce que les fitness girls nous disaient d'acheter.
Oui.
Le blanc de dinde, le si, le
saumon. Les yaourts allégés. En fait, oui. Aujourd'hui, j'achèterai plus jamais ces produits-là, ni quoi que ce soit. Et voilà, donc ce serait aussi pour rebondir sur un autre qui... les choses que je ne referais pas, si je devais commencer mon rééquilibrage alimentaire, ce serait les swaps.
Ah, vous savez qu'on ne l'a pas écrit.
On ne l'a pas écrit, mais c'est
vrai.
Bien sûr. C'est vrai qu'avec Zadora... Notre vision de l'alimentation healthy, c'était de tout changer, de tout modifier. Donc, si on avait une recette, je voulais préparer un muffin parce que j'avais une copine qui venait. Non, je n'avais pas préparé un muffin avec du beurre, pas du tout. Donc, comment je swap le beurre ? Je vais prendre du beurre, pas de beurre. Donc, je vais prendre de la compote de pommes. Voilà. Surtout, ne pas manger les jaunes d'œufs. Donc, poubelle, les jaunes d'œufs. En fait, on faisait que swapper. Donc, par exemple... Je sais pas qu'est-ce qu'on swappait.
Ben, par exemple,
on a tout swappé. La crème
entière était échangée par de la crème, par exemple, d'avoine.
Voilà, mais c'est ça. Moi, je le fais encore au quotidien. Oui. Ça, c'est aucun souci. C'est pas ça. C'est juste que du coup, dans mon cerveau, c'était moi maintenant quand
qu'est-ce
je vais
qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon.
Voilà, moi maintenant quand je vais prendre de la crème d'avoine ou de soja ou de riz plutôt. Moi, c'est plutôt crème de riz. Si je prends de la crème de riz plutôt que de la crème fraîche, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de manger végétal. J'ai pas envie d'aujourd'hui de mettre... Ou parce que peut-être que ce midi, j'ai mangé du fromage sur mon gratin et que j'ai pas envie de me faire des champignons à la crème ce soir à nouveau.
Encore du laitage.
Je préfère... Voilà. Donc, le végétal est toujours présent dans mon alimentation, mais je le sais pourquoi. Alors qu'avant, je mettais du lait de soja ou du truc de soja ou de toutes ces boissons végétales, toutes ces alternatives végétales, juste parce que j'estimais que végétal, ok, pas gras, pas sucré, bon pour ma santé, et j'estimais que crème fraîche a au secours matière grasse, pas du tout healthy. Et donc, on mettait allègrement plein de fromage blanc partout, 0%.
Et aussi, par exemple, ce qu'on faisait aussi, c'est par exemple la tablette de chocolat noir pour un gâteau. Non, on va éviter de la tablette de chocolat, on va plutôt prendre du cacao
non maigre.
Sucré, maigre. Voilà. Et quand tu. Alors, ça, c'est vraiment notre mère à chaque fois quand elle mangeait nos gâteaux. Alors, c'est bon, en soi, c'est bon parce qu'on en a présenté plein et c'est très bon. Mais il est où le côté gourmand ?
Oui, voilà.
Et c'est vrai que maintenant. Et ça, c'est chouette parce que, je pense que ça commence à se démocratiser aussi le fait de revenir à. On peut mettre du beurre dans son gâteau, on peut mettre. De la crème fraîche, etc., du fromage, etc. Et parfois, je vois sur des comptes des personnes qui disent, et c'est vrai, notamment les diététiciennes nutritionnistes sur les réseaux, qui disent « Attention, parce que plus tu swaps, et c'est tellement vrai, plus tu vas changer les ingrédients, plus tu vas être frustré, parce que ton gâteau, toi, tu voulais un cookie. Moi, quand je veux un cookie, je veux un cookie. »
Nous, à l'époque, on faisait un cookie avec du flocon d'avoine.
Voilà.
Donc, si tu as un cookie avec du flocon d'avoine, c'est pas le cookie...
Ton cerveau, c'est pas ce qu'il attendait.
Non.
Toi, ton cerveau, il a pensé que tu faisais des cookies. Il mange le cookie, il se rend compte qu'il mange de la banane écrasée avec des flocons d'avoine. Donc là, il se dit, ok, j'en mange un, deux, trois. Mon palais n'est pas satisfait. Mon cerveau n'est pas satisfait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le fameux cheat meal du samedi et du dimanche. Parce qu'on attend avec impatience, on se restreint toute la semaine, et avec impatience, vivement ce week-end que je puisse m'enfiler le paquet industriel de Pépito ou de granola, là, pas de granola genre muesli, le granola, vous savez, les gâteaux,
biscuits au chocolat.
Très très bon, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. En fait, c'est ça. Je préfère, moi, me faire des cookies. Et comme j'ai pas aussi, peut-être que c'est aussi le fait d'être mère aussi, comme moi, j'ai pas envie que ma fille... puisse penser que maman, elle fait des cookies à la banane. J'en fais pour elle, à son goûter, sans aucun souci. Mais...
Tu sais aussi pourquoi tu le fais.
Je sais aussi pourquoi je le fais, mais j'aime bien lui faire des cookies au beurre avec la farine blanche, avec du chocolat, parce que c'est important pour moi qu'elle sache qu'il y a plein de possibilités et pas uniquement avec maman, on mange diète. Elle va grandir.
Enfin, et elle va après avoir une vision d'alimentation aussi qui est restreinte.
Un peu biaisée aussi.
Donc elle va se dire, moi je ne mange pas ça parce que ce n'est pas bon pour moi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ferai plus cette distinction entre aliments bons et aliments mauvais. J'essaierai en tout cas soit de me faire aider pour comprendre l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est que les bases de l'équilibre alimentaire? Justement, tout à l'heure, je vous disais, si le midi, j'ai mangé du fromage, est-ce que ce soir, je me refais des champignons à la crème? Alors oui, sur le papier, manger des champignons à la crème, c'est santé, ou des épinards à la crème, c'est santé. Mais le midi, j'ai déjà mangé du fromage. Pour peu que au petit déjeuner, j'ai pris un yaourt ou au goûter, j'ai pris un yaourt. Là, on est sur un taux de laitage qui est déjà élevé. Plus, tiens, je vais prendre un cookie beurré, etc., sucré. Ça fait beaucoup. Donc, moi, j'essaierai déjà de comprendre ce que c'est qu'un équilibre alimentaire. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que nous, grâce à la plateforme, on a eu cette chance de...
Vous pouvez vous inscrire. Ah ben non, pardon.
Non. Mais on a eu cette chance-là. Donc moi, je conseillerais toute personne, si elle se sent perdue dans cet équilibre alimentaire, plutôt que d'écouter plein de gens sur les réseaux, d'aller trouver l'information auprès de professionnels de santé. Je conseillerais moi personnellement... diététiciennes, nutritionnistes, qui sont calées en micronutrition, notamment. Moi, aujourd'hui, si je devais recommencer mon équilibrage alimentaire, j'irais plutôt vers une micronutritionniste ou diététicienne, comme notre grande sœur, spécialisée en micronutrition, pour pas juste avoir « voici ce que vous devez manger le matin, le midi, le soir, partir avec mes menus ».
Il y en a encore beaucoup trop, ça. On voit sur les réseaux, ou même sur notre plateforme, les personnes qui nous disaient « oui, moi », qui nous envoyaient sur le groupe Facebook les menus. Et franchement, ça, pour moi, c'est plus possible de dire le midi, tu vas manger du brocoli vapeur, etc. Non, pour moi, ça, c'est pas possible. Donc oui, micronutrition, si vous pouvez, naturaux, si vous pouvez, parce que c'est hyper important, l'équilibre alimentaire, et de pas faire... Voilà, si notre expérience peut vous aider, les swaps comme ça, on leurre son cerveau de façon ridicule. Pareil, un swap qui se fait beaucoup, et encore aujourd'hui, nous, on l'a jamais vraiment fait, mais c'est très populaire, c'est tout ce qui est... on change le sucre, donc le sucre blanc, le sucre de coco ou le sucre complet, par de l'érythrol, tous ces trucs, comment on appelle ça déjà?
Des succédanés?
Oui,
des ersatz?
Non.
De sucre?
On dit que c'est...
Des édulcorants?
Des édulcorants, voilà, cherchez le mot. Ça aussi, c'est un truc que je ne conseillerais pas et que je ne ferais plus. J'en ai déjà acheté peut-être une ou deux fois dans ma vie. Avant, moi, dans ma tisane, mon infusion, déjà, je prenais pas de tisane infusion, je prenais du thé. Et je mettais beaucoup de sucre dedans.
Le yaourt aussi,
le yaourt sucré.
Du sucre obligatoire dans le yaourt.
La compote avec sucre ajouté.
Oui.
Les premières fois, le thé sans sucre.
Bah, le chocolat noir.
Le chocolat noir.
Moi, je mangeais que du chocolat au lait.
C'était compliqué. Mais au fur et à mesure... Notre palais s'est développé et maintenant, ça me fait même bizarre quand je mange des pâtisseries sucrées chez les gens ou dans une pâtisserie, etc.
Ouais.
On se dit souvent, waouh, ça
c'est trop sucré. La dernière fois, chez mes parents, enfin chez nos parents, et je prends une compote et là, je dis, niveau de sucre. Et ma mère, elle fait, c'est ton père qui est parti faire les courses et il n'a pas regardé, il a pris des compotes avec sucre dedans. Et tout de suite, moi, c'est, waouh, j'ai tellement pas l'habitude de manger tant sucré. Que mon palais, il a senti direct que c'était beaucoup trop sucré pour moi. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on serait frustré, etc. Mais en fait, je vous assure que quand vous mangez moins sucré au quotidien, eh bien, votre palais, il s'adapte à un moment donné et ça va le choquer. Mais c'est vrai que le fait de prendre des édulcorants, ça veut dire que comme c'est pas sucré, parfois, je remarque que les gens, ils en consomment énormément. Plus que si ils avaient mangé du sucre dans la journée. Ils en mettent partout.
Parce que c'est valide. C'est valide de manger ça, alors que pour le cerveau, ça reste du sucre. Donc lui, que ce soit du sucre ou du faux sucre, je pense que le cerveau, il sait qu'il va manger un truc sucré. Donc il y aura toujours cette attirance. Et comme je disais tout à l'heure, ce côté où on swap, ça donne envie, ça frustre. Clairement, ça frustre.
Oui.
Même
s'il y a des choses qui... Non, en fait...
Pas
il faut
tout,
vraiment...
hein.
Non, pas tout, parce qu'il y a des choses vraiment, pour moi, qui aujourd'hui font totalement partie de mon quotidien. Les swaps que j'ai fait, qui sont totalement aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, les crèmes végétales. Il y a aussi plein de recettes que j'ai découvertes parce que c'était mieux... Enfin, sur les... Tu fais une pizza, tu fais une vraie pizza. À l'époque, oui. On avait partagé ces types de recettes. Mais ça, c'est encore des choses qui font totalement partie de notre quotidien. Le soie pilé. Moi, je pense que le fait de changer, de modifier des... totalement un ingrédient pour un autre, il est possible, si par exemple, en effet, vous voulez faire un gâteau, vous n'avez plus d'œufs, vous mettez de la compote. Mm. C'est quand vous vous dites que vous le faites parce que c'est mieux qu'eux. Mm. C'est là que ça devient... je trouve que pour le... À terme, c'est ce qui peut faire développer des orthorexies chez les gens. Et alors moi, je pense qu'on n'en a jamais eu. Mais d'un côté, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas été un peu dans cette orthorexie? Je ne sais pas, mais en tout cas... Le but, c'était tout le temps de swapper, même si on n'avait pas de raison valable de dire « je vais plutôt me faire des champignons à la crème, je vais plutôt me faire des champignons à la crème de soja ». Je n'avais pas d'opinion valable.
Non.
C'est juste, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux de mettre de la compote plutôt que mettre du beurre. C'est mieux.
Ça paraît mieux, ouais. Alors, c'est pas du tout, en plus, c'est pas du tout la même catégorie de produits.
Oui.
Beurre gras, là, on a du fruit.
Oui.
Aucun rapport.
Donc, c'est ça, c'est swapper. Moi, je trouve que c'est hyper intelligent pour certaines fois. J'ai pas ça dans mon... J'ai pas envie d'aller faire les courses, j'ai pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de manger de fromage. Je préfère... J'ai pas envie de manger de fromage aujourd'hui. Je préfère prendre quelque chose qui n'est pas du fromage. Mais le faire juste totalement au quotidien, parce que c'est un ingrédient est mal, un ingrédient est bon, ça, là, je le referai plus du tout.
Et juste parce que t'as envie de manger ça,
oui,
tu vas tout swapper. Mais du coup, tu te retrouves avec un résultat final qui n'est pas... Et moi, je l'ai beaucoup eu... alors ça, c'était bien avant YouTube. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je swappais tout, bien évidemment. Et je pense maintenant avec le recul, je ne me souviens plus, mais je pense avec le recul que j'étais frustrée, puisque moi, j'attendais tous les vendredis soirs le moment ultime du cheat meal. Ça, c'est un truc également que je ne referais plus si j'avais faisais un rééquilibrage alimentaire, c'est de toute la semaine me frustrer. Donc oui, je fais des cookies à la banane écrasée avec des flocons d'avoine et des pépites de chocolat. Ça ressemble pas à un cookie. En plus, déjà visuellement, comme ça ressemble pas à un cookie, déjà t'es frustré déjà rien que visuellement. Tu le manges, c'est bon. Hein, t'es un peu frustré. Mais le week-end, si vous saviez ce que je faisais le vendredi soir. Alors moi, j'attendais avec Mathieu, mais c'était vraiment un moment hyper important pour moi, hein, le vendredi soir et le samedi soir. Toute la semaine, je mangeais donc vraiment strict, etc. Et le vendredi soir, on allait tout le temps, à l'époque, c'était au McDo. Et je me prenais alors le menu, les nuggets x12 pour moi toute seule, la grande frite et la petite frite, toujours. Plus le...
Ça fait quand même beaucoup, là.
McFlurry. Le McFlurry d'un nappage caramel.
Voilà, double nappage, supplément nappage.
Donc ça fait quand même que, comme je me frustrais toute la semaine, le week-end, je bouffais. Le matin, le lendemain matin, je pouvais aller dire à Mathieu, est-ce que tu peux aller me chercher à la boulangerie un petit déjeuner? Et le samedi soir, on allait souvent manger au restaurant asiatique, par exemple. Mais j'étais hyper heureuse.
Mais tu disais pas le mot frustré, parce que pour toi, c'était un équilibre.
C'était l'équilibre. Et puis, c'était ce terme qui, je sais plus s'il est encore populaire aujourd'hui, mais le cheat meal était hyper important dans le milieu du fitness.
Oui.
C'était tu manges bien toute la semaine. Donc, bien, ça veut pas dire selon ce que toi, t'as envie de manger, selon tes goûts. Mm. C'est vraiment, tu manges strict. Si t'es invité à manger pas la semaine, on évite.
Ou sinon, tu ramènes. Ton truc, il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient ça. Ils montraient ce qu'ils amenaient chez les gens quand ils allaient manger. Mais vous imaginez le délire?
Parce que pour la vie sociale, quand on est strict comme ça, on peut perdre aussi des gens sur le passage. Parce qu'il y a des amis qui, à un moment donné, vont dire « Elle nous saoule un petit peu, celle-là, à ramener ses cornichons, à ramener ses carottes, alors que moi, j'avais préparé une tartiflette. » Est-ce que l'alimentation, c'est pas aussi le vivre ensemble, la sociabilité, le fait de passer un bon moment ensemble, d'honorer le plat de quelqu'un?
Oui.
C'est quand même ça aussi l'alimentation, et c'est chose que je ne referai plus aujourd'hui, de faire comprendre à l'autre quand on va au restaurant, « Ah non, mais moi je ne vais pas manger ce que tu manges parce que c'est un peu trop gras, je ne vais pas manger ton repas parce que... Oh, juste un tout petit peu parce que moi en ce moment je ne peux pas trop, et pour qu'ensuite, après le vendredi soir, je vais manger au McDo, c'est plus ce que je ferai aujourd'hui. C'est plutôt même revoir peut-être aussi les quantités, la qualité comme on a dit, mais surtout je pense nous, notre problème à l'époque c'était vraiment aussi les quantités, on mangeait beaucoup.
Et parce que en fait on mangeait beaucoup parce que dans notre c'est vrai que l'équilibre alimentaire pour moi c'est vraiment revenir à la base, c'est parce que nous on imaginait une assiette c'était forcément une viande un féculent.
Beaucoup de féculents.
Et on mangeait peu de légumes. Mmh. Et donc, du coup, comme on mangeait peu de légumes, on a cette impression qu'il fallait toujours... Tu sais, le riz, si tu fais une assiette de riz,
oui,
et que tu ne mets pas de légumes à côté... Mmh. Bah, tu vas remplir ton assiette de riz, comme les pâtes. Si tu as mangé que des pâtes à sauce tomate ce midi, t'as pas de légumes, t'as zéro légume à côté, mais tu vas remplir ton assiette de pâtes. Et c'est, je pense que c'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on mange vraiment des repas qui nous plaisent et on fait attention. Enfin, c'est pas qu'on fait attention, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré. Mais au début, en tout cas, je pense que c'était quelque chose qu'on devait réfléchir, ce qui est normal. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais moi, du coup, j'y pense trop. C'est trop un peu mathématique, c'est trop cadré. Mais c'est normal, une toute nouvelle habitude sera toujours un petit peu rigide au début avant de se mettre en place. C'est totalement... Enfin, je veux dire, moi, ça me paraît juste impensable. C'est comme quand vous commencez un nouveau travail. Au début, vous avez peut-être un classeur. On vous a peut-être fourni, si la personne avant vous a fait son taf, elle vous a laissé un classeur, une feuille de route, quelque chose, un process, comme on appelle ça, qui vous aide. Et au début, peut-être les premiers mois, vous regardez à chaque fois, ah tiens, ça me rappelle moi, c'est pour ça que...
Moi aussi, ça me rappelle moi.
Je dois faire un bon de commande, je ne sais plus comment on fait un bon de commande. Ah bah tiens, elle m'a laissé son process, je regarde exactement, je fais pas à pas exactement ce qu'on me dit de faire. Et moi, je suis restée 3 ans dans mon administration, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, le truc, je le connaissais tellement par cœur, j'avais plus besoin de ce process, et c'est bon, je l'ai laissé à la personne qui m'a succédé.
Mais c'est comme un enfant qui marche. Claudie me disait ça il y a quelques jours. Mais tout est une question d'exercice, d'apprentissage. L'enfant, quand il a appris à marcher, est-ce qu'on peut voir comment il se concentrait quand même ? Il se concentrait de ouf à la marche, et aujourd'hui, je pense à ma fille, elle marche.
Voilà.
La question n'est plus là, mais on a tous dû apprendre.
Voilà.
Donc oui, au début, on est dans le contrôle, qui est complètement normal, il n'y a rien de « oh là là, elle est dans le contrôle ». Si vous êtes dans le contrôle pendant 10 ans,
voilà,
là, en effet, peut-être qu'il sera temps, à un moment donné, de peut-être se dire « est-ce que je n'irai pas voir un professionnel pour
travailler ?» Il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être, si vous êtes
mais
encore dans
début,
le contrôle.
Mais au début, ça me paraît complètement normal de se dire « ah oui, ah, j'ai pas mis de légumes. Ah, c'est vrai qu'il fallait que je mette des légumes. » Jusqu'au moment où ces gestes seront devenus une habitude.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le chimie, par exemple, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai fait.
Oui.
Parce que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Parce que moi, très rapidement, j'ai vu le rééquilibrage alimentaire. C'est pour ça que je voulais aussi parler dans cet épisode de ces choses aussi que je referais pareil. Oui. C'est que moi, tout de suite, j'ai cherché à manger sainement tout en gardant toujours le côté hyper gourmand. Mais, par exemple, plutôt que de faire le poulet que je vous disais sans légumes, c'était juste du poulet avec des pommes de terre, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, les aubergines farcies. Moi, je ne connaissais pas. Je me suis dit, ah bah tiens, aubergines farcies, quinoa, petits légumes, etc. Ça m'a vraiment, avec du fromage dessus, ça me faisait vraiment plaisir quand je mangeais ça. Je ne me disais pas, oh, vivement ce week-end. Non, parce que je prenais vraiment plaisir à le faire. Le soir, je faisais mes wraps au saumon fumé, etc. Par contre, je mettais tomates toute l'année. Je mettais dedans salade, carottes râpées. Je me faisais une petite sauce à base de crème soja. Je peux dire que c'était pas terrible comme sauce parce que c'était liquide, quoi. Alors, aujourd'hui, je mettrais du fromage blanc, par exemple. Je me dirais, tiens, tu te fais peut-être un truc, peut-être pas de la crème fraîche, enfin, pas de la crème parce que ça serait un peu trop gras, mais, et puis trop, ça serait riche. Mais un fromage blanc, une bonne sauce avec un bon fromage blanc, des herbes, du citron, etc. Je me ferais ça avec plaisir. Mais à l'époque, je me faisais des beaux wraps et je les contente.
Mais c'est vrai que toi, t'as toujours eu ce côté-là que moi. Alors, quand je parle de cheat meal et tout, ça n'a pas duré... Enfin, toute cette partie, de toute façon, que j'ai très stricte, n'a duré, entre guillemets, que, je pense, pas plus d'un an, je crois. Bien un an, je dirais. Et après, quand je voyais, toi, toi, tu fais ça, etc., on s'envoyait des photos parce qu'on n'habitait pas du tout à côté. Donc, souvent, on s'appelait parfois en disant « Qui fera ce soir mieux, toi, avec ton conjoint, moi, avec Mathieu, etc.
»
On disait « Qu'est-ce qu'on fera de bon ce soir ?» Et toi qui m'as initié, encore une fois, on revient à ce que Claudie dit toujours, au jeu. Au fur et à mesure, ça m'a éloignée de cette rigidité que j'avais de « Il faut que je mange la salade et des galettes de maïs parce que je veux absolument avoir... » Comme objectif, il était simple et précis, je voulais voir sur ma balance 58 kilos.
C'est ça.
C'est tout ce que je voulais voir.
Et c'est vrai que moi, comme j'ai vu plutôt dans réduire mes quantités, ça c'était une évidence, et ajouter. Moi, c'est vrai que la première chose que j'ai faite, mais inconsciemment, aujourd'hui je l'ai conscientisée, mais à l'époque c'était totalement inconscient, c'est que moi j'ai décidé d'ajouter du verre dans mon alimentation que je n'avais pas finalement. Je me mettais... On a toujours mangé des légumes, mais c'était quoi ? Trois petits pois ou oui trois petits pois dans un gratin.
C'était le gratin en chou-fleur pommes de terre qu'on a toujours continué à faire, mais moi c'était accompagné de la baguette
voilà,
de pain
voilà.
Et je saussais
voilà, donc, et finalement... du poulet de mauvaise qualité et voilà. Donc moi j'ai décidé, la première chose que j'ai faite, de toute manière vous le savez, la première chose que j'ai faite moi c'est d'intégrer quelque chose et pas de retirer. Mmh. Et ça, je pense que c'est un bon conseil que je vois beaucoup de gens donner au quotidien, mais je trouve que c'est vraiment impératif dans un premier temps de peut-être pas aller tout de suite à je vide mon frigo de tout ce qu'il a, je change totalement mon alimentation, parce qu'on sait ce que c'est. Parfois, on change radicalement et après, déjà, on sait plus pourquoi on a changé radicalement. On sait plus, est-ce que j'ai écouté une nana ? Ah oui, mais peut-être, est-ce que ça correspond à mes valeurs, à qui je suis, à mon bref. Donc, plutôt que de tout vouloir métamorphoser comme ça parce que j'ai écouté une vidéo de quelqu'un. C'est plutôt, qu'est-ce que je peux ajouter déjà ? Si on commence par ajouter du légume, comment ça peut se décrire ? Donc moi, ça s'est décrit par le green smoothie. C'est comme ça que j'ai intégré les épinards dans ma vie. C'est que le matin, avec mon conjoint à l'époque, on prenait notre green smoothie. Et parce qu'au début, c'est moi qui le prenais toute seule. Ensuite, il a décidé qu'il trouvait ça super bon aussi. Donc on en a fait un chacun. Et au fur et à mesure, Isadora, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au jeu. C'est que moi, je me suis beaucoup prise dans le jeu. À l'époque, j'avais pas de réseaux sociaux, moi j'avais rien du tout, je faisais ça pour moi, je jouais beaucoup. Moi, c'était pas sur Pinterest à l'époque, c'était beaucoup plus sur Tumblr à l'époque, que je regardais un petit peu les recettes que les gens postaient. Je me disais, ah bah tiens, aubergine farcie au quinoa, je connais pas, allez, on va tenter. Et c'est vraiment que des petits tests, des petits trucs de jeu. Je me disais pas, il faut que ce soit bon impérativement pour perdre du poids, je me disais juste, est-ce que ça peut vraiment être bon ? Parce que nous, on est très difficile. C'est vrai que les gens se disent... potentiellement que quand on mange healthy, on n'est pas difficile. Je vous assure que moi, pour que ce soit gourmand, enfin, pour que je dise que c'est bon, il faut que ce soit bon. Mmh. Je ne peux pas me contenter de cette personne qui mange voilà, ton filet de dinde, là, que tu disais sous vide, avec des petits pois carottes, qui disent, mais c'est une dinguerie. Non, je n'y crois pas, je ne baille pas du tout ça, je n'achète pas du tout ton truc. J'ai vraiment besoin de quelque chose de très gourmand au quotidien. Mmh. Et j'avais besoin de me prouver, grâce à ces... test de recette, que je pouvais manger du légume gourmand. Donc moi, la première chose, c'était vraiment d'ajouter du légume. Donc je l'ai ajouté de tellement de manières différentes. Dans mes wraps, je faisais en sorte d'avoir toujours des légumes au maximum. Voilà, les aubergines farcies, les poivrons farcis. J'essayais que dans mon repas, il y ait toujours du légume. Et au début, c'était pas quelque chose qui était normal pour moi, c'était pas quelque chose, ne serait-ce que ça peut être commencé juste à mettre de la salade. On commence, voilà, aujourd'hui j'ai fait une pizza maison par exemple, c'est ok, pas de soucis, je déteste dire c'est ok mais je l'ai dit, achevez-moi s'il vous plaît, mais bon bref, je fais une pizza maison, je fais des lasagnes maison, j'ajoute du légume dans mes lasagnes, c'est le top, des légumes sur la pizza, c'est top, j'ajoute de la salade verte à côté de ma pizza, c'est top, j'ai ajouté, vous voyez, j'ai pas tout de suite pensé à retirer.
Alors que moi j'ai retiré,
oui,
mais finalement sur un an. Et après c'est vrai que Marisa m'a parlé du green smoothie, bah, hop, j'ai testé, c'est dégueulasse le premier, ça avait un goût d'épinard.
Le premier, je l'ai foiré aussi, j'avoue. Je l'ai foiré, mais de ouf, tellement il était horrible. Et je me souviens, je sais pas pourquoi j'ai décidé d'en refaire. Parfois, j'ai ce truc, moi j'ai des lubies, parce que je me disais, tout le monde sur Tumblr en bois, ça doit être bon. Je peux pas croire que les gens disent que c'est bon, quelque chose qui n'est pas bon. Et donc après, c'était une question peut-être de doser les épinards.
C'est ça, c'est vrai que quand, ça aussi, c'est important de tester plusieurs fois. On dit qu'il faut tester 7 fois avant d'apprécier un aliment. Parfois, c'est dommage qu'on s'arrête dès la première bouchée. On se dit, c'est pas bon, j'en mangerai plus jamais. Alors qu'il y a d'autres façons, c'est sûr, de pouvoir apprécier ça. J'avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu disais.
Oui, parce que c'est ça, c'est ne vous bloquez pas parce que vous avez vu Isadora et Marisa ou autre blogueuse, créatrice de contenu, ce que vous voulez, faire une recette de brocoli. Et vous voyez qu'elles adorent cette recette et que vous n'avez pas du tout aimé. Et vous dites, en fait, non, j'aime pas les brocolis. Non, tu n'aimes pas cette version, cette façon de consommer le brocoli, mais tu peux aimer. Après, il y a des aliments que vous êtes tout à fait en droit de détester jusqu'à la fin de votre vie. Le maïs, il y a peu de chances que j'aime tout court. Mais... moi, par exemple, l'avocat, je déteste l'avocat. En revanche, dans des makis, je le mange avec plaisir. Y a des choses comme ça, la tomate, moi, je la mange peu avec plaisir, cuite, par exemple, sauf concassée. Mais la tomate cuite, sauf que notre mère, quand elle fait ses tomates à la provençale, que j'avais partagé la recette il y a longtemps sur YouTube aussi, j'avais adoré. Donc, c'est pas se dire j'aime pas cet aliment et rester buté dessus, c'est de voir comment je peux et donc toujours faire entrer le jeu. Mmh. Et pas se dire j'ai pas aimé une fois, ouais, c'est bon, et limite je déteste ce légume. Laissez-le rentrer à nouveau dans votre vie. Ne prenez peut-être pas 3 kilos de chou-fleur. Prenez juste, je sais pas, une petite poignée d'épinards si vous n'aimez pas les épinards. Vous en prenez juste une petite poignée chez le producteur ou ailleurs. Et ensuite, vous pourrez dire ah bah tiens, je l'ai testé comme ça, j'ai bien aimé. Je pourrais peut-être en reprendre une fois de plus pour tester dans une autre recette. Mais c'est le jeu qui c'est vrai. Ça, j'avais pas pensé à le dire, mais faire rentrer du jeu dans votre cuisine. Vous verrez que ça vous changera la vision de l'alimentation, en fait.
Et en même temps, enfin, là, on parle rééquilibrage alimentaire, mais j'ai envie de dire quasiment dans tout, dans la vie. Ce serait bien de faire remettre un peu plus de jeu, un peu plus de rire, même dans la vie professionnelle, même quand on est toujours tous là, stressés tout le temps. On serait beaucoup moins stressés si on jouait un petit peu plus comme les enfants. On les voit jouer toute la journée, moi, je suis là.
Ils ne sont pas stressés.
Pas de stress, hein. Ouh, la vie, elle est chill. Et le dernier point... qui est aussi très important, que je changerai radicalement, c'est le rapport au mouvement, au sport. À l'époque, je ne disais pas au mouvement, hein, ni activité physique. À l'époque, je disais sport, fitness, no pain, no gain. Je déteste le sport que je fais, mais je m'en fous parce qu'à la fin, je verrai, c'est 58 kilos. On n'oublie pas, hein, 58 kilos sur la balance, c'est tout ce qui comptait.
Oui. Et surtout, le sport, c'était... un sport intense.
Oui, intense.
C'était pas, il fallait un sport dont tu vois des résultats immédiatement.
Exactement. Il fallait que je transpire et que quand je me pèse le lendemain matin, je vois que grâce à mes petits morceaux de jambon et mon sport et le yaourt 0%, il fallait que je me pèse le matin, parce que je me pesais tous les jours, parfois même deux fois par jour, il fallait que je vois qu'il y ait une perte.
Mais moi, juste pour te faire une parenthèse, une digression dans ton propos... Tiens-le bien dans dans ta tête. Mmh. C'est la chose aussi que je garderai, moi, de mon chemin de rééquilibrage alimentaire, cette chose que je ferai tout pareil, c'est que moi, je n'ai jamais acheté de balance. Je n'en avais jamais eu. Je n'ai jamais eu de balance chez moi. À partir du moment où j'ai quitté la maison de nos parents, je n'ai jamais acheté de balance. La première fois que j'ai réu une balance chez moi, c'est quand je me suis mise avec Samuel. Mais je garderai ça parce que moi du coup je n'ai jamais eu ce truc de vouloir me peser tous les jours. Je n'ai jamais acheté de balance. Je savais que j'avais envie de perdre du poids, c'est clair et net que j'avais fait ça dans un but au début purement esthétique, mais ça était plus les vêtements dans lesquels je me suis rendu compte que j'avais un changement. Mais la balance, c'est encore un truc que je dirais que je n'achèterai jamais.
C'est vrai, hein, parce que c'est horrible, parce qu'une fois que tu rentres une balance dans ta vie, tu en deviens très vite dépendant et très vite addict. Alors que et ça change une émotion, c'est incroyable d'ailleurs. C'est, tu te pèses le matin, toi tu t'es senti par exemple le matin, tu te réveilles en de super bonne humeur, tu sais que ta journée elle va être géniale.
Ou si toi tu t'es estimé que toute la semaine dernière, parce que souvent les gens ils se pèsent peut-être en début ou en fin de semaine, tu dis toute la semaine t'es fier de toi, t'as marché, t'as bien mangé, tu t'es fait des bons plats, t'es heureuse, t'es satisfaite de toi, et que tu montes sur cette fucking balance qu'elle te dit que t'as pris 100 grammes ta fierté.
Et ben finalement, tu deviens de mauvaise humeur, tu baisses les bras, tristesse en toi. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Parfois, je fais des comparatifs quand j'y pense le matin. C'est un peu la même chose que pour moi, les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'es de bonne humeur, t'as passé une bonne journée, nanana, et le matin, au réveil, tu vas aller sur les réseaux sociaux et t'as un message qui est pas... Et ça a donné le ton de tout le reste de ta journée. Ben, la balance, pour moi, c'est la même chose, comme les informations, enfin plein de petites choses comme ça. Enfin, essayons que le matin, au moins, on se réveille, qu'on reste sur l'énergie qu'on avait dès le départ. Et la balance, moi, je trouve que c'est rare. Et ce qui est hyper traître, c'est que si on voit une perte, on est hyper heureux. Et en fait, notre bonheur ne tient qu'à un chiffre qui, en plus, peut dire mais tellement de choses. Ça peut ne rien avoir avec le fait que tu es marché ou tu es allé courir ou quoi. Ça peut juste être le fait que tu pèses un peu moins pour X ou Y raison.
Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne rentrez pas dans le truc de la balance. Et si vous en avez une, soit vous la jetez, soit vous la mettez dans un endroit où vous, au début vous allez y penser beaucoup, mais après vous l'oubliez. Mais franchement, rentrez pas dans ce jeu. Et si vous y êtes rentré, essayez pas évidemment de tout balancer. On sait très bien ce que c'est une addiction ou une habitude qui est fort ancrée. C'est d'éloigner déjà les peser. Dans un premier temps, déjà de les éloigner. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai jamais intégré ça dans mon quotidien. Et je m'en félicite parce que je pense que nos personnalités sont telles que je serais rentrée dedans, je me serais pesée limite tous les jours, et pour rien, en fait, finalement.
pour que ça conditionne ton humeur de la journée.
Oui.
Donc là, c'est pas ouf. Et
donc pour l'activité physique.
Pour l'activité physique, à l'époque, moi, voilà, je faisais des sports que je... Alors, pas tous, parce qu'il y en a que j'ai gardés, hein, vous l'avez plein de fois vu. Mais en tout cas, au tout début, déjà, je suis allée courir. Première chose que j'ai fait, c'est courir. Je détestais courir, je pleurais. Enfin, on se rend compte quand même que quand Mathieu me disait « Allez, tu viens, on va courir », parce qu'il faisait un peu mon coach, je pleurais avant de partir en disant « J'ai pas envie, mais je déteste ça, mais pourquoi je dois faire ça ?» Pourquoi je me suis infligé ça?
Ah, c'est drôle ça, parce que moi, j'ai commencé par la course, comme toi, oui. Avec mon ex-conjoint. On a commencé par la course, mais moi, j'étais tellement... Pareil, moi j'ai commencé au printemps. Mmh. Je commence pas la course en plein hiver. J'avais commencé au printemps. Et donc moi j'étais hyper contente parce que je l'avais saucé à venir avec moi. Sinon seule, j'y serais pas allée.
Toi, il courait avec toi, pas moi.
Oui, moi il courait avec moi. Bah, lui il était content. Il disait oui. Ah bah super parce que lui aussi il devait se remettre en forme. Parce que si je mangeais autant, vous doutez bien que lui aussi il mangeait. Et que voilà, on devait se remettre en forme tous les deux. Et donc, du coup, on s'est motivés tous les deux à aller courir. J'étais hyper contente d'aller courir, de prendre l'air, etc. Mais. Qu'est-ce que je détestais ça, quoi. Au bout d'un moment, je me disais, mais j'ai juste envie de marcher, moi. J'ai pas envie de courir.
Alors que moi, c'est le contraire. Je voulais pas du tout y aller. Je pensais vraiment que je détesterais ça. Et finalement, c'est devenu, au fur et à mesure, un plaisir pour moi qui est toujours d'actualité. J'aime. Alors, je fais plus comme avant, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aller courir. Aujourd'hui, c'est plus. Il fait beau. Voilà, moi, c'est. C'est l'occasion parfaite pour aller courir. Mais à l'époque, pour moi, le sport, c'était pas un moment de comment ça.
De déconnexion, de moments pour toi, de moments plaisir, de moments bien-être.
Pas du tout. C'était, moi, je courais tous les jours, avec juste parfois une journée off. Il y avait un terme qu'on employait à cette époque-là, le day off, tu vois. Mais je le faisais pas parce que j'avais envie de le faire. C'était, il fallait que je cale à un moment donné ma séance parce que ça allait me permettre d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Donc, je faisais tous les sports possibles. En plus, à l'époque, il y en avait des programmes sportifs. Waouh, ça a duré pendant quand même de nombreuses années. Tous ces programmes sportifs, les youtubeuses qui faisaient plein de vidéos, qui en plus, moi, ne me correspondent pas.
C'est ça.
Ça veut dire que moi, faire par exemple de la salle de muscu, etc., j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé faire des squats. J'ai jamais aimé avoir les poids. Pourtant, je le faisais. Parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Et c'est un truc que je ne referais plus du tout. Si je devais reperdre du poids un jour, il est hors de question que je m'inflige des sports qui ne m'intéressent pas.
Oui, moi, qui ne te correspondent pas. Parce que tous les sports sont valables, tous les sports ont le droit d'exister, encore heureux. C'est parce qu'Isadora et Marisa n'aiment pas faire des squats ou de faire des
tabata, jack.
Des jumping jacks, de je ne sais pas quoi, que ça veut dire que c'est nul. Ça veut juste dire que nous, ça nous concerne, non. Ça ne nous fait pas plaisir. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai laissé tomber la course, parce que vraiment, je détestais ça, et que j'ai découvert la danse. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en salle, que j'ai commencé à faire la Zumba, le LIA. Oui. J'adorais aussi le body combat, parce que c'était musical. Moi, j'étais une meuf, une clubeuse. Donc, moi, j'avais besoin de musique dans ma vie. J'adore la musique. Moi, j'ai du mal à me passer de musique. Donc, du coup, le fait d'avoir de la musique, une ambiance, etc., ça m'a vraiment fait me rendre compte que j'avais hâte le vendredi soir d'avoir mon cours de Zumba suivi de mon cours de LIA. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Afro Vibe. C'était génialissime. C'est une danse qui fait vraiment cardio, mais sur les rythmes afro, quoi. C'était tellement génial.
Si vous êtes à Paris, allez les suivre sur Instagram, parce qu'à chaque fois, moi, je suis là. La chance,
oui. Afro Vibe, c'est Marseille-Paris. Ouais. Si vous êtes à Paris ou à Marseille, franchement, il faut tester. C'est
les événements en plein
génial.
Air, parfois, je les vois, je suis là. Mais quelle chance vous avez de pouvoir faire ça.
Ouais. Donc moi, j'ai découvert l'Afro Vibe, donc je me suis rendu compte à quel point j'avais un sourire comme ça quand je faisais de la danse. Après, j'ai découvert la kizomba, la bachata, la salsa, etc. Et je me suis dit, mais en fait, Marisa, c'est ça que t'aimes faire. C'est marcher déjà, juste marcher dans la nature, ça j'aime, ok. Et la danse. Mm. Et donc ça, c'est le sport qui me convient. C'est l'activité sportive, l'activité physique qui me convient. Et les autres choses, ça peut me convenir pendant un temps, mais je m'en lasse très vite. Alors que la danse, je sais que je m'en lasserai jamais du tout. Donc, à refaire aussi, j'essaierai de papillonner un petit peu de sport en sport pour trouver, tiens, quel est ce qui me convient le plus.
Et sans culpabiliser de se dire que notre sport n'est pas valide. Parce que ça, c'est un truc aussi qu'on voit souvent que les gens nous disent. Oui, moi, j'aime bien faire tel sport, mais est-ce que c'est vraiment un sport? Pour moi, l'activité physique, c'est du moment où tu bouges. Comme disait Karine sur la plateforme, si vous êtes des passionnés de jardinage, vous faites ça très souvent le week-end, c'est une activité physique. Faites aussi voir la différence entre le sport. Est-ce qu'on a envie de faire du sport? Ou est-ce qu'on a envie d'être dans le mouvement? Est-ce qu'on a envie d'une activité physique? Tout dépend. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le sport, à proprement parler, m'intéresse peu. Après, je vieillis aussi. Et je pense qu'à un moment donné, je vieillis, je deviens un peu plus... comment dire ça ? Je vois les choses différemment. À 20 ans, à 25 ans, tout ce que je voulais, c'est perdre du poids. À 35 ans, enfin, j'ai d'autres priorités aujourd'hui dans ma vie que de me peser tous les jours, etc.
Et c'est vrai que Hélène Lavinen, elle en parle souvent, qu'elle, elle fait du... Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse. Elle partage tout le temps sa passion de l'aqua.
Gym.
Bike, l'aqua gym, voilà. L'aqua gym, tout ce qui est aqua dynamique, etc.
Aqua combat.
Et elle dit, je sais que pour beaucoup de gens, c'est un sport de vieux. Mais moi, c'est le sport qui me convient, donc j'en suis fière, je suis contente d'aller le faire et ça me fait du bien. Oui. Et c'est vrai que parfois, il faut juste se dire quel est le sport qui me convient, même si c'est de faire du badminton et que tu as l'impression que badminton, c'est pas hype, mais c'est à toi de le rendre hype aussi. Si tu as envie de le rendre hype, que soit si tu es sur les réseaux ou que tu sois dans la vraie vie, toute personne qui est fière, qui est contente, etc., rendra hype un truc comme la kizomba, par exemple, qui parfois peut penser... La kizomba, genre te coller à un inconnu, non mais dès que je dis que je fais de la kizomba, j'ai que des gens qui vont me dire « Ah ouais, moi je peux pas te coller. » Donc tu serais un peu susceptible ou un petit peu, influençable, je dirais « Ah ouais, non, c'est vrai, non, faut pas se coller. » Mais moi, comme j'adore ça et que je sais pourquoi je le fais, je m'en fiche en fait si les gens trouvent que je me colle trop aux autres. Ça, c'est moi, ça ne regarde que moi. Donc pareil pour l'aqua... Gym, Hélène, elle adore faire ça. En effet, c'est pas hype pour les gens. C'est pas grave.
Et c'est vrai que, pareil...
Faire, la marche nordique. Si t'as 20 ans, t'as envie de faire de la marche
la
nordique.
Randonnée.
Ou de la randonnée.
Et bon, moi, c'est un truc, par exemple, que j'aurais adoré. Je rate parfois pour me dire, est-ce que j'irais pas m'inscrire dans un club de randonnée ? Parce que moi, j'adore marcher. Et parfois, marcher seule, ça t'oblige à rester dans les... Surtout quand t'es une femme, tu restes un peu dans la rue, etc. Alors parfois, j'aimerais juste aller mais en pleine nature. Mais j'irais pas toute seule. Mais il y a des clubs de randonnée. Fais de la randonnée. En fait, c'est chouette si c'est un sport, enfin une activité physique qui nous convient. Et pareil, ça me fait penser quand tu parlais, une chose que je ne referai plus, c'est cette volonté de faire plus. Par exemple, quand Mathieu, il y a 3-4 ans, il était inscrit au tennis en association, parce que tout ce qui est tennis, généralement, c'est les assos, c'est 1h30 par semaine. Et moi, à l'époque, je leur ai donné en disant qu'une heure et demie dans la semaine. Mais lui, il passait un moment, génialissime. En plus, si vous connaissez un peu le monde des assos, tu restes 1h30, tu ne restes pas 1h30.
Non.
Tu fais 1h30 de sport.
Oui.
Après, c'est on se prend l'apéro. Si, par moi, je ne vois même pas les bénéfices. Mais le principal, c'est qu'ils ont passé tous un bon moment. Et moi, je trouvais que ce n'était pas assez. Comment ça, 1h30 tous les jours ? Tous les jours, il faut aller travailler, faire du sport. Aujourd'hui, j'en suis complètement revenue. Quand on est retourné à la salle dernièrement, le concept de lundi, mardi, jeudi, à des heures fixes, moi, je me suis dit, ça ne va plus aujourd'hui avec mon rythme de vie. Et ça m'irait beaucoup plus, en effet, aujourd'hui, d'avoir 1h30 en association. 1h30 dans la semaine. Et à côté, continuer à faire ma petite marche. Si j'ai envie d'aller courir parce qu'il fait beau, je vais courir. Mais ce côté que j'avais à l'époque de figer, de tous les jours faire du sport, ou en tout cas 3-4 fois dans la semaine parce que c'est ce qu'il faut, je m'en suis complètement éloignée, aussi grâce à la plateforme qui avait bien fait le distinguo entre sport, la plateforme Intention, je parle, sport et mouvement. Parce que finalement, le sport, comme disait Tiffany dans notre épisode, on est tous des sportifs sédentaires. Alors, faire du sport à la salle, c'est super, mais pour rentrer à la maison, on fait 3/4 d'heure de cours collectifs pour rester toute la journée après assis à une chaise. Alors que finalement, le plus important, c'est le mouvement tous les jours, pas le sport tous les jours, je pense.
Donc, si ça vous dit, d'ailleurs, on a une chronique naturo sur le sujet, sur le mouvement. Mmh. Ça peut vous intéresser. Moi, je sais que c'est une chronique que j'adore. C'est une de mes préférées de notre plateforme. Mais elle est disponible à l'achat à 7 € et quelques sur notre boutique en ligne. C'est justement avec Claudie, qui est naturopathe. On parlait du mouvement, les bénéfices, le pourquoi bouger au quotidien et comment intégrer aussi le mouvement dans son quotidien sans pour autant faire du sport au quotidien. Mmh. Mais juste, si on dit ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je me dirais, c'est bouge quotidiennement. Sois en mouvement quotidiennement et c'est pas fais du sport quotidiennement. Je pense pas que ce soit ça. Parce qu'en fait, le sport quotidiennement, par exemple, quand je pense par exemple à des... parce que les influenceuses, par exemple, qu'on va voir qui sont sportives, qui font du sport tout le temps, qui vous vendent des programmes sportifs, c'est leur métier aujourd'hui de faire du sport. Donc, c'est ancré dans leur routine parce que c'est leur métier. Est-ce que tous les jours, elles ont envie de faire du sport ? Non, mais c'est leur métier, donc elles n'ont pas le choix. Mais je me dirais, aujourd'hui, Attends, je me suis perdue là. Être en mouvement tous les jours, Là, je me suis perdue.
Bah, peut-être que c'est aussi avancée. Le côté que parfois, ça peut être un peu culpabilisant pour certaines personnes de voir des coachs sportifs dire le sport tous les jours, alors que finalement, c'est leur métier. Donc, oui. Quand comme c'est ton métier, comme nous, par exemple, faire à manger, alors, on adore ça, mais c'est aussi une partie de notre métier où on propose des recettes, etc. C'est parce que c'est ancré dans notre vie, comme elles, c'est, sans aucun jugement, c'est leur métier. Donc elles sont tous les jours à la salle. Quand elles disent qu'elles y vont, parfois j'en ai vu une autre fois qui disait qu'elle est à la salle 6 heures par jour, dans un quotidien
non.
différent, qu'on a tous complètement différent. Moi je peux pas me permettre d'aller 6 heures à la salle.
Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est exactement ça. Merci Dora, je me vois très bien ce que je voulais dire. C'est par rapport au fait que le sport c'est bien, c'est génial, mais faut pas oublier que dans une vie, y a des moments où moi, quand j'étais jeune, sans enfant, célibataire, je pouvais aller à la salle 3-4 fois dans la semaine. Après, ta vie fait que, bah, je sais pas, tu deviens maman solo, je sais pas, tu... Il y a plein de possibilités, il y a un prisme entier de ce que peut être la vie. Donc si on se contente que du sport, moi je vois par exemple souvent, moi c'est par rapport à Samuel ou à d'autres personnes, d'autres hommes de notre entourage, le sport, c'est génial. Ils font leur sport tous les jours, ils font leur sport, nanana. Dès qu'il n'y a plus de sport, parce que la vie fait qu'à un moment donné,
je sais pas,
soit bah, tu vois, tu deviens parent, tu fais quelque chose. Ah, il n'y a plus de sport. Donc comme il n'y a plus de sport, il n'y a plus de mouvement, parce qu'il n'y a pas ce truc de je me mets en mouvement, c'est juste je fais du sport. Eh bien, ça, le sport, c'est assez fatal. Hein. Si tu n'en fais plus du tout, ça t'oublie. Et donc ton corps... Vous avez compris. Donc, alors que si vous faites du mouvement, si dans votre tête, c'est je suis en mouvement tous les jours... Je fais juste potentiellement 5000 pas. Juste, je bouge 5000 pas dans ma journée. C'est ça dont le corps va se souvenir. En fait, il va se souvenir que tous les jours, au quotidien, il est en mouvement. Et pas le lundi à 10h, je fais du sport et tout le reste de la semaine après, je ne vais pas à la salle de sport avant le jeudi. Après, je ne bouge pas de la semaine jusqu'à dimanche. Ça, le corps, il se dit, t'es sédentaire. Il ne dit pas que la meuf, elle est partie 3 fois à la salle dans la semaine, mais elle n'a pas bougé tout le reste de la semaine. Donc, ouais, j'aurais une vision différente du sport, ça c'est sûr. Et la chronique Naturo, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé ça aussi en moi, cette vision du sport qui était le sport. Alors je me dis, Marisa, quand t'auras 50 ans, peut-être que t'auras pas envie de faire du sport. En revanche, t'auras peut-être envie toujours de marcher, toujours de danser.
Et surtout parce que quand on voit par exemple les grands-mères ou les arrière-grands-mères, quand on leur demande quel est votre secret par exemple pour avoir pour être là depuis longtemps, pour rester en forme, etc. Et par exemple vivre jusqu'à peut-être 90 ans, jamais elles ne parleront de sport. Et ça qui est drôle, c'est que c'est notre société aujourd'hui qui nous fait aller à la salle de sport, faire du sport, mais les personnes âgées de 90 ans, et nous on en est entourés dans ce village, quand je leur pose la question, jamais il n'y a le mot sport. Pour eux, et c'est vrai en plus, c'est l'amour. Par exemple, ma voisine qui dit souvent, moi c'est parce que je suis entourée, j'ai de l'amour. L'alimentation et pas d'excès en tout genre.
Et le mouvement, elles sont toujours dans le jardinage, dans le potager, elles se baladent tout le temps, tous les jours.
Tu les vois, moi je vais marcher, je les croise tout le temps. Mais en aucun cas, elles m'ont dit, j'aimerais bien imaginer ma voisine avec son petit leggy en train de faire...
Pourquoi pas avec les haltères et tout.
Mais c'était pas la société de l'époque, ils en avaient rien à faire du sport. Et je suis même pas sûre que ce soit ça qui nous fera tenir plus longtemps.
Je pense pas que ce soit le sport qui nous fasse tenir
jusqu'à 90 ans.
Non. C'est pas que le sport ou... je pense isolé, c'est pas possible que ça soit que ça qui nous fasse tenir, ça c'est sûr. Moi, je pars du principe que c'est l'alimentation qui fait une grande partie. Mais comme diraient nos amis japonais dans leur... vous savez, les zones bleues, les zones où on vit le mieux au monde, enfin le plus longtemps au monde, que ce soit le Japon, Costa Rica, etc. Je dirais, oui, en effet, c'est ça. C'est être entouré, parce que c'est ça aussi, on n'a pas parlé, c'est ce que je changerais. C'était, si je devais recommencer mon rééquilibrage alimentaire aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est les raisons pour lesquelles je le commence. Et c'est vrai qu'à l'époque... J'avais commencé que pour quelque chose d'esthétique, mais aussi on l'a dit. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi...
Tu questionnerais peut-être pourquoi. Parce que même si je prends du poids et que j'ai envie de refaire un équilibrage alimentaire, j'essaierais quand même de me demander pourquoi je le refais.
C'est quoi ma motivation profonde? Parce qu'aujourd'hui, ma motivation profonde pour continuer à manger sainement, pour continuer à être en mouvement, etc. au quotidien, c'est parce que moi, je désire vivre... le plus longtemps possible. Après, tout peut m'arriver. Hein. C'est juste que moi, je me dis dans ma tête, Marisa, ma priorité, c'est de me sentir bien, en santé, d'être en santé. C'est pas juste physiquement, extérieurement. Mmh. Je voudrais, moi, potentiellement, qu'avec ce que je mange au quotidien, le fait que je sois en mouvement, que mon cœur y tienne le plus longtemps possible et que je vieillisse en bonne santé. Parce que moi, ce que je dis toujours à mes parents, c'est si c'est pour vivre jusqu'à 90 balais, devoir faire des prises de trucs, des, je sais pas, les gens qui sont
perfusés, tout ça,
perfusés, etc., je préférerais pas. C'est vrai que nous, on a une grand-mère qui a 96 ans, qui parle toujours comme vous et moi, qui a aucun problème de santé. Elle a une hygiène de vie excellente. Et moi, c'est ça que... Je dis pas que je vais mourir à 96 ans. C'est possible que je meure avant. Il y a plein de possibilités. Ça se trouve, je peux avoir un cancer du pancréas et alors, je pensais que je mangeais bien et que j'ai peut-être un truc au poumon, au foie, au rein, qu'est-ce que j'en sais. Mais en tout cas, je mets tout... je fais en sorte que, au quotidien, je mange sainement pour me faire du bien dans mon corps et pour potentiellement voir mes petits-enfants, si j'en ai, grandir. C'est, aujourd'hui, ma motivation, c'est plus ça. Oui, c'est de vieillir en bonne santé.
Oui, et c'est vrai que moi, je me le dis souvent, quand j'aurai 95 ans, si des jeunes viennent me voir, je n'aurai aucune envie de lui dire de faire du sport, par exemple. Enfin, aucune envie de lui dire que la seule motivation qu'il doit avoir dans sa vie, c'est son corps. Et je suis sûre qu'à 96 ans...
Son corps extérieur, parce que son corps intérieur, c'est notre maison. Il faut en prendre soin toute notre vie.
Parce que le corps que j'avais il y a 10 ans, par exemple, je trouvais très chouette, je prenais des photos, super. Mais finalement, on va tous vieillir. Donc finalement, j'aimerais que mon estime de moi-même soit plus profonde que juste mon corps. Donc là, c'est un truc que je ne referai plus non plus, de penser que c'est uniquement ce but-là qui est intéressant dans ma vie, alors que déjà, 10 ans plus tard, parfois je me dis... C'était si creux. Mm. C'était si creux. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour hein, de ce qu'on aimerait recommencer. Enfin, non, pas non,
ce qu'on aimerait... Si on devait recommencer notre équilibrage alimentaire, on sait aujourd'hui que si on avait eu ce discours, on avait entendu ce discours-là, si, peut-être qu'on aurait fait différemment certaines choses, peut-être qu'on n'aurait pas fait différemment, peut-être que c'était notre chemin, de toute manière, c'était comme ça. Mais cet épisode, c'était surtout pour vous donner peut-être des pistes de réflexion, pas pour que vous changiez tout et vous dire que ce que vous faites, c'est juste de la merde et mettez... Non. On n'est pas des experts, donc nous, on partage notre expérience et, comme on dit tout à l'heure, notre chemin et notre réflexion qui a beaucoup changé ces dernières années.
Et c'est quand même intéressant, ça se trouve, dans 10 ans, on refera la même. On sera peut-être végétarien, parce que là, on parle de, on mange de la viande de meilleure qualité. Peut-être qu'on dira, bah non, on n'en mange plus.
Oui.
En fait, il faut laisser. Ça, c'est un truc qu'on a du mal parfois aussi sur les réseaux. C'est quand on a dit un discours il y a 10 ans, on doit le maintenir pendant des années, alors qu'on oublie que les réseaux sociaux, c'est tenu aussi par des êtres humains qui sont tout comme vous, en questionnement, en chemin, dans le travail de soi. Et ça se trouve, dans 10 ans, celle-là, eh ben, ce sera autre chose.
Et bah d'ailleurs, ça me fait rire parce que ce matin, en ce moment, j'ai la biographie, ça va faire très intellectuel, de George Sand, que j'apprécie beaucoup. Et justement, elle disait dedans qu'elle n'arrive pas à comprendre, et 1845, l'être humain n'a pas changé, qu'elle n'arrive pas à comprendre les gens qui pensent que les êtres humains sont les mêmes que la veille. Mm. Et ça, c'est vrai qu'en 1845, elle trouvait que les gens estimaient ça. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, les gens pensent toujours que Marisa, quand elle a dit quelque chose il y a un mois, c'est toujours extrêmement valable aujourd'hui. Que Marisa n'a pas eu le droit de changer d'avis, d'évoluer, de changer de réflexion, d'avoir été peut-être au contact d'une personne qui m'a fait changer ma vision des choses. Et que c'est, pour moi, c'est un leurre. Et pour George Sand aussi, c'est un leurre. Et ça me fait plaisir de me dire, ah bon, bah, ça va, je suis pas seule à le penser. Que c'est un leurre que de croire que les gens ne changent pas de ce qu'ils étaient la veille. Mmh. Bah si, c'est sûr et certain qu'on change.
Une certitude d'hier n'est plus une certitude parfois aujourd'hui.
Voilà, mais aujourd'hui, dans notre... aujourd'hui, là, à l'instant présent, c'est notre vérité. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis des années maintenant, et des choses que l'on a conservées, des choses que l'on a enlevées, comme on en a parlé dans cet épisode. Mais c'est notre vérité aujourd'hui. Mm. Et si ça peut résonner chez certains d'entre vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas du tout, pas de soucis. En tout cas, n'hésitez pas, si ça résonne pas ou si ça résonne, qu'est-ce qui résonne chez vous de ce qu'on a partagé aujourd'hui? Qu'est-ce qui résonne pas du tout? Où est-ce que vous en êtes aussi dans votre chemin de rééquilibrage alimentaire?
Et ce serait intéressant de répondre aussi à cette question-là. Si vous nous suivez depuis longtemps et que vous avez fait depuis longtemps aussi un rééquilibrage alimentaire, parce qu'on sait que vous êtes nombreuses à nous dire c'est grâce à vous que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que vous avez gardé de ce rééquilibrage alimentaire? Qu'est-ce que vous avez jeté? Et où vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes comme nous plutôt? Bah voilà, Voilà, nous, c'est passé. On se ressent plus côté rééquilibrage alimentaire. Mais voilà, ce serait intéressant d'avoir un petit peu vos retours. J'allais dire, je dis dans le truc des commentaires sur YouTube, mais j'oublie que vous ne voyez pas mon geste, ceux qui écoutent le podcast. Oui. Je suis en train de parler de la barre de... Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Une barre de commentaires sur YouTube.
Une barre de commentaires.
Mais voilà. Si pour les personnes qui n'écoutent que le podcast, eh ben vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre sur notre compte Instagram pour échanger avec nous en message privé. Mmh. Donc sur notre compte Instagram, @isadora.eet.marisa. Et voilà, on se laisse là pour cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures.
À plus.